Des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
OK, ça enregistre?
Ouais, vas-y.
Fait que là, on est au cégep de l'Outaouais. On est à la porte 16 dans le stationnement du cégep. Ça donne sur le bois, dans le fond, ça donne sur le parc de la Gatineau.
Ouais, on va prendre la trail 26.
Puis ça, c'est environ 200-300 mètres de la porte principale du cégep.
En ce moment, on refait le trajet que les étudiants de l'Outaouais ont fait des centaines de fois en deux cours durant les longues pauses du cégep. En tant qu'ancien étudiant du cégep de l'Outaouais, je connais très bien le sentier ici, comme Steven Boivin, le réalisateur de la série, qui m'accompagne en ce moment.
Ah, ça, c'est le banc de... en mémoire de Valérie Leblanc.
En la mémoire de Valérie Leblanc, 3 mars 1993, 23 août 2011, étudiante au cégep de l'Outaouais.
Le bois derrière le cégep, il est comme mythique. Chaque année, depuis 50 ans, il y a des milliers d'étudiants qui viennent ici pour leurs cours de biologie, pour les entraînements d'éducation physique ou pour fumer un joint sur l'heure du lunch. Comme pas mal de Gatinois, j'ai grandi dans cette forêt qui fait partie du parc de la Gatineau. C'est mon premier party dans le bois autour d'un feu et ma première trail de vélo de montagne. Dans un rayon de 800 mètres, il y a le cégep, un collège anglophone et une école secondaire qui donnent tous sur la forêt. Le nom du boulevard indique bien où on se trouve. On est sur Cité des Jeunes. Aujourd'hui, on n'est pas revenu ici par nostalgie de nos années de cégep. En fait, moi, c'est la première fois que je reviens dans le sentier depuis que le corps de Valérie Leblanc a été retrouvé ici durant la semaine de la rentrée en 2011.
OK, on tourne ici, c'est juste là.
Ben voyons.
Check si tu vois, là. Il y a comme l'arbre avec le gros 8 dessus.
Ouais.
Puis juste à côté, c'est comme le... Ils ont fait comme un petit monument, là, avec des branches, puis il y a la photo de Valérie.
D'où tu catches pas? On voit le cégep d'ici.
Ouais, tu peux clairement voir le monde dans la trail.
Ce que j'arrive pas à m'expliquer, c'est comment une jeune fille de 18 ans a pu être tuée en plein jour, durant les heures de cours, à la rentrée scolaire, pendant qu'il y a des milliers d'étudiants autour. Et surtout, comment ça se fait que 7 ans plus tard, le coupable court toujours? Vous écoutez Synthèse, une série qui tente de faire la lumière sur des meurtres non résolus. La première saison, le cas Valérie Leblanc. Ce qu'on va vous raconter tout au long de la série, c'est beaucoup plus qu'un simple meurtre non résolu. C'est l'événement le plus invraisemblable et le plus étrange de l'histoire récente de l'Outaouais. Gatineau, c'est une ville tranquille de 250 000 habitants, dont beaucoup de fonctionnaires. Honnêtement, la région est un peu beige. Il n'y a pas beaucoup d'action. Bon an, mal an, il n'y a jamais plus que 5 homicides. Ça arrive même qu'il n'y en ait pas durant toute une année. Depuis mon enfance, je suis fasciné par les meurtres qui se passent en Outaouais. La raison est simple. Mon père est coroner et d'aussi loin que je me souvienne, on parlait des cas de morts suspectes dans la région. J'ai vraiment pas suivi ces traces. Je suis devenu réalisateur et animateur. Mais s'il y a une chose que mon père m'a transmise, c'est la curiosité de comprendre ce qui se passe sur une scène de crime. On va donc faire la synthèse de l'enquête sur Valérie Leblanc, qui est toujours en cours selon le service de police de la ville de Gatineau. Ce qui nous a poussé à vraiment plonger dans les détails, c'est que la population a participé activement à l'enquête en faisant plus de 2000 appels à la police, en organisant des événements à la mémoire de Valérie et des campagnes de financement. Mais malgré les efforts de tout le monde, personne n'a été accusé du meurtre.
La mort de Valérie Leblanc n'a jamais été élucidée et le travail d'enquête effectué par la police de Gatineau dans l'affaire a été plusieurs fois critiqué publiquement.
On n'est pas ici pour faire le travail à la place des policiers. Mais le sentiment général, c'est que l'enquête semble pas avancer. Les amis et les proches de Valérie veulent des réponses et on a eu leur bénédiction pour faire la lumière sur les événements. Là où les personnes qui ont fait ça sont toujours en liberté, et c'est inquiétant. Il y a des témoins et des acteurs clés qui ont accepté de parler publiquement pour la première fois. C'est grâce à eux qu'on va réussir à mieux comprendre ce qui est arrivé à Valérie Leblanc. Avant toute chose, on commence en reculant de 7 ans, le jour du drame. Mardi 23 août 2011, c'est la rentrée au cégep de l'Outaouais. Il fait encore vraiment chaud. L'été est loin d'être terminé, mais les étudiants du collégial doivent déjà retourner à l'école. Il y a de l'électricité dans l'air. 3000 jeunes de 17 à 20 ans qui débarquent des autobus, qui vont chercher leur plan de cours et qui s'entassent dans les locaux en béton du campus Gabriel Roy à Gatineau. J'ai vécu la rentrée au même campus et c'est une semaine assez relaxe. C'est vraiment plus un événement social que la reprise des cours en tant que tel. Il y a des barbecues, de la musique, des petites activités ici et là, et surtout des gangs qui se retrouvent après des mois de congés. Valérie Leblanc, une Gatinoise de 18 ans, commence sa deuxième année dans le programme de sciences humaines. Elle a passé l'été à jouer de la musique, à faire des grandeurs nature et à travailler comme animatrice de fêtes d'enfants à Gatineau. Valérie est une fille plutôt marginale et ses amis le sont tout autant. On a rencontré une de ses meilleures amies qui porte le même prénom, Valérie Charland. On a été capable de faire un premier contact avec elle parce qu'on a beaucoup d'amis en commun. Val Charland nous a reçus dans son appartement et on a parlé de la dynamique au sein de leur groupe d'amis.
On était à la gang de marginaux. C'est qui joue de la musique. Puis qui... puis ça love tout le monde, puis on lit des mangas, puis on écoute du métal.
OK. Puis ouais. comment cette gang-là s'est formée? Ça s'est-tu fait comme dans la première année de cégep ou c'est-tu comme secondaire?
Ben, moi, Oli et Audrey, on était tous à travers le terminal ensemble.
Olivier et Audrey sont vraiment importants dans l'histoire. On va y revenir dans quelques instants.
Là, après, comme Oli connaissait une autre fille, fait que là, comme ça a fait juste plein de liens à travers... comme des cours, puis j'ai rencontré elle dans mon cours, elle était trop cool, genre, je viens tenir dîner avec nous. Je sais pas, l'heure du lunch au cégep, c'est la pause du mercredi, là, c'est sacré, hein, comme...
Ça crée des liens.
Ça crée vraiment des liens, puis on vivait toutes loin un de l'autre, mais il y avait personne qui vivait proche. Fait que pour garder contact, on restait à l'école, puis on chillait à l'école, parce que c'était comme... c'était cool, tu sais. C'est comme drôle d'en reparler, hein. C'est comme un deuil qui a été fait, mais on a rouvert un livre que je pensais pas qu'elle allait rouvrir.
Ah ouais, hein?
Ouais.
Déjà après cette première rencontre, on est conscient qu'on fait revivre des moments difficiles à des proches de Valérie Leblanc. On savait que ça allait pas être facile. Val Charland nous a mis en contact avec Olivier Gérard-Joyal, qui a aussi accepté de nous rencontrer. Olivier nous a parlé longuement de Valérie Leblanc.
Elle était quand même spéciale, c'était un peu un personnage, si on veut. Puis dans les cours, puis comme dans tout autre contexte, c'était une personne qui était particulière, tu sais, qui marchait nu pied dans les corridors, qui s'habillait un peu de façon excentrique, qui parlait de choses excentriques. Elle faisait des jokes très, très imagées. Puis je pense que c'est pour ça que les gens avaient de la misère un peu à connecter avec elle. Valérie, c'était un peu un outcast. Là. C'était pas la fille populaire là, du cégep, mais comme loin de là.
On commence à comprendre l'esprit du groupe. Des individus un peu en marge, qui se tiennent serrés et qui passent tout leur temps ensemble. Dans la gang, il y a Olivier et sa sœur jumelle Audrey, Val Charland et le copain de Valérie Leblanc, Jérôme. Ils ont tous vécu les événements du 23 août 2011 de très près. Olivier était avec elle ce matin-là.
Donc, en gros, Valérie, ce jour-là, on a pris l'autobus ensemble, OK?
Le matin?
Le matin. Puis tout allait bien, il n'y avait rien qui me laissait douter qu'il y avait quelque chose qui allait se passer. Puis c'était une des premières journées d'école, c'était comme le mardi, quelque chose comme ça. Donc c'était encore les cours où est-ce qu'ils présentaient juste les plans de cours. Donc tu avais 3 heures de cours en théorie, mais ça se limitait à 1 heure finalement. Fait que dès 10 heures, moi j'étais sorti de mon cours, puis elle aussi. Puis on s'était croisés dans les corridors, puis encore là, tout allait bien. T'es souriante, tout ça. Même qu'on s'était fait des plans pour aller magasiner la fin de semaine de cette semaine-là. Fait qu'il y avait encore une fois rien qui indiquait qu'il y avait quelque chose qui allait se passer.
On a aussi demandé à Val Charland de nous décrire le matin du 23 août.
Bien, puisque c'était la première semaine, il nous laissait partir plus tôt. Ouais. Fait comme peut-être 11h, 11h15. On se retrouve à 11h30 au Salon Bleu. On jase, parle. Puis là, à 11h35, mettons, elle dit « il faut que je parte ». Elle s'en va. À 11h45, elle revient. Puis là, elle repart. Puis là, on se dit « ah ben, I guess que t'as vu ressourcer les chakras ». Puis là, à 12h30, moi j'avais un cours. Fait que jusqu'à 12h30, on a chillé ensemble, toute la gang. Puis après ça, on est parti. Fait que, comme midi, ça a dû se passer, là, cette histoire-là. Mm-hmm. Puis, dans la tête, ils m'ont dit qu'à minuit, à midi, elle était morte. Elle était cliniquement morte.
Quand on essaye de retracer la ligne du temps entre 10h et 15h, il y a comme un gros flou. Entre les heures données par Olivier Girard-Joyal et celles données par Val Charland, ça se tient même pas. Et chaque fois qu'on parle à un membre de la gang, on a des versions différentes. Avec le réalisateur de la série, Steven Boivin, j'ai passé des heures à essayer de replacer les morceaux du casse-tête.
OK, fait que là, pour l'instant, qu'est-ce qu'on sait dans la ligne du temps? C'est que Val est sorti de son cours, puis après ça, est allé se promener dans le bois.
Ouais, ben elle avait un cours le matin, cours à 8 heures. Cours qui dure pas les 3 heures complètes parce que c'est la première journée d'école. Fait que mettons, elle sort de son cours à 10h15.
On sait pas, mais...
À peu près, t'sais. Ouais. Elle va dans le bois avec son copain, Jérôme. Il se laisse.
C'est ça que tout le monde dit, dans le fond.
Tout le monde dit que... Certains disent que c'est elle qui l'a laissé, certains disent que c'est lui qui l'a laissé. Mais il se laisse. Valérie revient à l'école. Puis elle est vue à l'école après avoir été dans le bois la première fois.
OK, puis ça, il y a pas mal de monde qui nous le disent. Il y a un des amis de Jérôme. Il y a Val Charland qui nous a dit ça aussi.
Ouais, il y a plusieurs personnes qui nous disent avoir vu Valérie avec une de ses amies qui est surnommée Milu. Mm-hmm. Milu, ce serait la dernière personne à avoir vu Valérie vivante. On a retracé Mélu, on a trouvé c'était qui, on y a envoyé un courriel, puis elle nous a simplement demandé de plus jamais y parler. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'elle sait qu'on sait pas, tu sais? Fait que Valérie revient à l'école, mais décide de retourner dans le bois. Est-ce que c'est pour chercher pour Jérôme? Est-ce qu'elle veut y parler? Est-ce qu'elle veut y se ressourcer? Pourquoi elle retourne dans le bois? On le sait pas. Mais elle retourne dans le bois.
Olivier Girard-Joyal quitte le cégep à 14h et après souper, il écrit à sa sœur Audrey parce qu'il trouve ça bizarre que Valérie donne pas de nouvelles.
Puis en fait, c'était en début de soirée que le copain de Valérie, ben c'était plus en fait son copain, c'était laissé, Jérôme, il a texté ma sœur puis il a dit « Ah! » »«
T'as-tu des nouvelles de Val? Je l'ai appelé. » Elle me répond pas, on vient de se laisser. Je savais pas que c'était laissé à cette journée-là. Je savais que ça allait pas bien parce que Val en m'en parlait souvent, qu'elle était plus sa même longueur d'onde puis qu'elle voulait juste mettre un terme à cette relation-là. Fait, j'avais des doutes que c'était fini, mais j'avais pas eu la confirmation d'un des deux. Puis là, Jérôme me texte. Il me dit, ah, ben là, t'as-tu une nouvelle de Val? J'ai pas de nouvelle de Val. Fait que là, je texte Val, elle me répond pas. J'appelle Val, elle me répond pas. J'envoie un message sur Facebook à Valérie. Et là, on a un message. Ça vient de la mère de Valérie.
Elle nous dit qu'elle cherche Valérie puis qu'elle aimerait ça qu'on puisse l'appeler. Fait que je l'appelle. Puis elle m'explique la situation. Puis elle me dit en gros, le sac à Valérie a été retrouvé proche du cégep durant l'après-midi. Il a été déposé dans un dépanneur, si je me rappelle bien. Puis elle était supposée aller le chercher dans le dépanneur. Mais elle n'est pas allée. Puis il était rendu 9h. Fait que là, sa mère a appelé la police pour expliquer la situation. Puis elle m'a dit, je me rappellerai toujours, elle m'a dit, Gatineau, c'est pas Montréal, je pense pas qu'il serait arrivé rien de grave, puis c'est Valérie. Fait qu'elle allait se coucher, puis c'était fini. Puis quelques minutes plus tard, sur le fil d'actualité de Facebook de ma sœur, quelqu'un a écrit « Ah, ils ont trouvé un corps proche du cégep, c'est creep. » Fait que là, tout de suite, moi, j'ai su que c'était elle, tu sais. Mais je pensais que c'était un suicide. Je pensais que c'était à cause qu'elle s'était faite laisser par son copain, puis qu'elle était trop triste, tu sais. Fait que là, mon père, moi, je paniquais. Fait que mon père m'a amené au cégep tout de suite en voiture.
Là, je pense que mon frère t'a dit ça. Lui, il a pas pris de chance, il est parti. T'es allé au cégep le soir même, les policiers l'ont tout de suite mis dans l'auto pour te questionner.
Puis tout de suite, quand on arrive, la police nous interpelle, nous demande qu'est-ce qu'on fait là, comment on a su qu'il y avait quelque chose. Puis il y a un enquêteur qui m'amène dans son auto, puis qui me pose des questions sur... en fait, pourquoi j'étais là, t'sais. Puis là, j'explique que comme une de mes amies elle répondait pas à l'appel depuis comme quelques heures, puis on était inquiet, puis qu'on savait qu'il y avait un corps qui avait tout retrouvé. Fait qu'il me demande à quoi elle ressemble, t'sais, comme quelle couleur de cheveux elle avait, quelle couleur de vêtements elle avait. Il me demande, puis je réponds à toutes ces questions-là, puis il fait juste noter. Puis il me demande quel genre de souliers elle avait. Fait que là, j'ai dit, ah ben, je suis pas sûr des souliers de sport, I guess. Puis il me dit, c'est-tu des souliers de skate noir? Puis là, je dis, ouais, c'était ça. Mais il pouvait pas me dire que c'était elle, right? Mais je savais que c'était elle à ce moment-là. J'avais comme la confirmation.
Vers 16h cet après-midi, la centrale 911, service de police de la ville de Gatineau, a reçu un appel de la part de piétons. Des gens qui marchaient sur la piste cyclable, qui est située derrière le cégep de l'Outaouais, soit le 333 boulevard Cité des Jeunes à Gatineau, dans le secteur Roll. Les gens ont découvert un cadavre, un corps qui était inanimé au niveau là, de près de la piste cyclable.
On a contacté le premier journaliste qui est arrivé au cégep en après-midi, quelques instants après la police. Éric Charron, un Gatinois de notre âge, travaillait à la radio locale depuis environ un an. Il se souvient très clairement de la scène de crime.
J'étais le premier journaliste à arriver sur les lieux. Parce que mon frère fréquentait le cégep. Puis là, il est parti, il est sorti de son cours, puis il a vu plein de police dans le parking, puis il a dit « il se passe quelque chose, c'est sûr ». Fait qu'il m'a appelé, moi je me suis rendu sur place. Je me demandais c'était quoi cette grosse scène-là, je me demandais c'était quoi tout ce déploiement-là. Puis là, j'ai commencé à faire des appels parce que je me disais que c'était probablement quelque chose d'important puis d'assez horrible pour que tout le monde ait l'air stressé comme ça, tu sais.
Les autres journalistes de la presse locale commencent à se pointer en début de soirée. Ils découvrent un large périmètre de sécurité avec beaucoup de voitures de police. Mais personne n'a de détails sur ce qui se passe. On sait qu'ils enquêtent sur une mort suspecte et que la victime n'a pas encore été identifiée.
C'est mon premier contact ce soir-là avec la famille de Valérie Leblanc. J'ai trouvé ça vraiment bizarre parce que les grands-parents, les deux grands-parents, Huguette, la grand-mère Huguette Leblanc, puis son grand-père dont le nom m'échappe, sont arrivés. Puis ils ont commencé à dire « on le sait que quelque chose de grave est arrivé, on le sait ». Puis là, je leur ai demandé « c'est quoi le nom ?» De votre petite fille que vous cherchez. Puis là, c'est là qu'ils m'ont dit Valérie Leblanc. Tu sais, à ce moment-là, on savait pas que c'était Valérie Leblanc, la victime, rien à ça, là. Puis eux, ils avaient l'air de savoir qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Pas comme s'ils s'y attendaient, mais comme s'ils sentaient, comme s'ils étaient venus voir à la bonne place pour leur petite fille qui était disparue.
L'instinct de Bert et Huguette Leblanc, les grands-parents de Valérie, leur a pas menti. Le corps de leur petite fille allait être identifié ce soir-là.
J'étais vraiment incrédule. Là. J'étais comme, voyons donc, ça se peut pas que ça se soit passé en arrière du cégep chez nous. T'sais. Mais finalement, ça s'est avéré, puis c'est ça qui était assez traumatisant dans cette histoire-là. Je me rappelle, j'avais pas dormi de la nuit. Puis là, ben, on commence à apprendre que c'est une jeune femme. Si je me souviens bien, elle avait 18 ans. Et qu'elle avait été brûlée, qu'elle avait été maltraitée, violentée, probablement agressée sexuellement.
La rentrée au cégep de Gatineau a été assombrie par un drame horrible. C'est une étudiante qui a été retrouvée morte, brûlée et mutilée dans un boisé près du collège.
Éric Charron n'a pas réussi à fermer l'œil cette nuit-là, mais Olivier Gérard-Joyal, l'ami de Valérie, a réussi à trouver le sommeil. Par contre, son réveil a été brutal.
Puis le lendemain matin, il y a une de mes amies qui me téléphone. Puis elle me dit, Olivier, je sais pas si tu sais, mais Valérie est morte. Puis je dis, oui, je sais, elle s'est suicidée à cause que elle est en peine d'amour. Puis elle me dit, non, elle s'est pas suicidée. Elle s'est fait violer, puis son corps a été retrouvé brûlé.
Dans les émissions matinales à la radio et à la télé, on commence à diffuser les détails. L'information sort tout croche, et quelques heures après le meurtre, il y a déjà des tonnes de rumeurs sur les circonstances du drame et même sur l'identité de la victime.
Alors, je rappelle les numéros de téléphone pour nous rejoindre en direct, le 514-790-2730. Ça, c'est juste pour le dossier de Valérie Leblanc de la région de Gatineau qui aurait été victime d'un crime. Appelez pas pour n'importe quoi. J'ai
une nouvelle, il y a Claude Poirier qui présente des photos de la mauvaise Valérie Leblanc. Moi, je veux des gens. Il y avait deux Valérie Leblanc sur Facebook. Tu voyais comme l'autre Valérie Leblanc en robe de balle. Fait que là, tout de suite, j'appelle TVA pour leur dire. Puis là, ils me mettent en onde immédiatement.
Bonjour.
Vous la connaissez?
Oui.
Alors, racontez-moi ce que vous savez d'elle.
Ce que je sais d'elle, c'est que je la connais depuis à peu près quasiment un an. Puis avant-hier. Fait que pas besoin de vous dire que comme ça me choque comme énormément, genre, ce qui arrive en ce moment.
OK. Quelle sorte de petite fille que c'était, 18 ans, pas mieux?
Vraiment joyeuse. Elle aimait vraiment beaucoup la vie. Elle avait des plans de carrière et tout. Par contre, elle avait pas beaucoup d'amis. Il n'y a pas beaucoup de monde qui la connaisse. D'ailleurs, c'est pas les bonnes photos que vous diffusez depuis.
Ben non, on s'excuse, là. Il y a quelqu'un qui a appelé. Là, on va tenter de pouvoir retrouver parce que ça nous avait été fourni par des proches. Alors, ce n'est pas les bonnes photos. Bon, racontez-moi, dites-moi, là, est-ce que c'est vrai qu'elle avait une amie puis c'était, ça ne fonctionnait pas de péniscus?
Oui, ça marchait pas avec son chum depuis un moment, mais je pense que la manière que ça finissait cette histoire-là, je pense que c'est plus fini que sur un commun accord. Puis je connais bien son chum, puis ce gars-là, il est vraiment doux, fait que je pensais pas qu'il y ait un rapport avec...
Ah non, on n'a jamais pensé ça non plus. Est-ce que vous l'avez parlé aujourd'hui? Vous l'avez rejoint?
À la fin de l'entrevue, Claude Poirier demande en direct à Olivier Gérard-Joyal s'il peut lui donner les coordonnées de l'ex-amoureux de Valérie pour lui parler. À cette époque, Jérôme était encore mineur, ce qui explique pourquoi il n'est jamais identifié dans les journaux, à la radio et à la télé. Jérôme n'accordera jamais d'entrevue et il ne prendra jamais la parole publiquement. La ville au complet est plongée dans une intrigue policière. On a une jeune fille de 18 ans qui a été tuée à quelques centaines de mètres de son école, en plein jour. On apprend que son corps a été brûlé et mutilé. Et que ça s'est passé quelques minutes après une rupture amoureuse. Le service de police de la ville de Gatineau donne très peu d'informations à la population, étant donné que l'enquête est en cours. Alors que la police est avare de détails, les journalistes arrivent à parler aux piétons qui ont trouvé le corps de Valérie. Et c'est comme ça qu'on apprend que ce sont des étudiants qui ont découvert le corps et qu'ils ont attendu des heures avant d'appeler la police parce qu'ils pensaient que c'était un mannequin. Un mannequin qu'ils ont manipulé. Dans le prochain épisode de Synthèse.
Quand tu te fais dire que c'était une personne, une fille, vraiment le cadavre d'une fille, que tu disais que j'ai passé 45 minutes à côté d'elle à toucher sa peau, voir si c'était du plastique, à penser que c'était un faux, puis à sentir son odeur qui brûlait, là. Puis à penser que c'était du plastique. Tu feel cheap un peu, là.
Synthèse est une série produite par Transistor Media en collaboration avec Cube Radio. À la réalisation, Steven Boivin et moi, Julien Morissette. Journaliste à la recherche, Olivier Charbonneau. Adjointe à la réalisation, Marie-Hélène Frenette-Assad. La musique est de Francis Faubert. L'habillage sonore est signé Steven Boivin et Julien Morissette. Si vous avez des informations sur le cas Valérie Leblanc, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse info@commercial-transistor.media. Je m'appelle Julien Morissette.